Crimes non résolus, trésors maudits, mystères, occultisme, les unes des journaux récentes ou passées regorgent ces chroniques inquiétantes de ces aventures incroyables qui, du jour au lendemain, ont bouleversé la vie d'hommes et de femmes dont le seul tort fut de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Je suis Hervé Michel, écrivain, et je vous invite à me suivre sur les sentiers les plus tortueux de l'âme humaine jusqu'au terme de ce voyage au cœur de l'étrange. Découvrons ensemble ces histoires insolites qui, je l'espère, ne troubleront pas vos rêves de la nuit. Bienvenue dans cette série intitulée « L'écrivain mène l'enquête ». Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être averti de la sortie des prochains épisodes et n'oubliez pas non plus de visiter mon site internet hervémichel.net pour connaître mon activité littéraire. Sachez également que je viens de publier un nouveau roman aux éditions Legacy, un roman intitulé « Le trésor du marquis ». Je vais aujourd'hui vous raconter une histoire qu'aurait pu inventer Conan Doyle, une enquête tout à fait digne de son héros Sherlock Holmes. Tout débute pourtant par un crime tout ce qu'il y a de plus banal. Une vieille dame assassinée à son domicile dans des conditions pour le moins atroces. Elle a été égorgée. C'est le genre d'affaire que les policiers traitent hélas bien trop souvent. En général, il n'y a pas 36 solutions. Le coupable est la plupart du temps un proche de la victime qui avait un mobile. Argent, jalousie, convoitise. Il ou elle est généralement très vite démasqué. Mais, dans des cas plus rares, il peut s'agir du crime d'un rôdeur, d'un vagabond de passage, d'un opportuniste qui, son forfait accompli, change de ville, de région, ou même de pays, et devient alors extrêmement difficile, voire impossible, à localiser. Dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, les policiers sont perplexes. Les pistes s'entrecroisent et ne mènent nulle part. Les témoignages ne concordent pas. Les enquêteurs doivent systématiquement tout reprendre à zéro. La victime semblait bien connaître ses agresseurs, mais on ne trouve aucune trace des suspects dans son entourage proche. Comment est-ce possible ? Revenons-en, si vous le voulez bien, au début de ce drame. Madame Laurent, veuve depuis quelques années, a durant un temps habité chez son fils et sa belle-fille. Mais, comme souvent dans ce genre de ménage à trois, les choses se sont très vite envenimées et la sexagénaire a préféré louer un pavillon à Montrouge, au sud de Paris. C'est une brave femme sans histoire, appréciée de ses voisins, qui n'en pensent d'ailleurs que du bien. Madame Laurent, une femme courtoise, bonne voisine, toujours un petit bonjour, mais méfiante. Vous savez, elle fermait toujours sa porte à double tour et ne laissait jamais rentrer d'inconnus. Une fois, elle a même refusé l'entrée de sa maison à l'employé du gaz, c'est vous dire. Et pourtant, ce 2 août 1934, la pauvre femme a bel et bien ouvert la porte à son assassin. En effet, lorsque vers midi, Stéphane Laurent, le fils, qui est chauffeur de taxi, vient rendre visite à sa mère, il ne remarque pas la moindre trace d'effraction sur la porte, qui est curieusement restée entrebâillée. Il appelle, en vain. Il s'avance, explore chaque pièce. Une étrange odeur flotte dans l'air. C'est l'odeur du sang. Lorsque Stéphane Laurent entre dans la salle à manger, il se fige. Sa mère est étendue sur le sol, baignant dans son sang, la gorge ouverte d'une oreille à l'autre. Une incision propre, précise, un coup de rasoir, affirmera plus tard le légiste. Lorsque l'inspecteur principal Moreux arrive sur place, avec son adjoint, quelque chose le chiffonne. Cette scène de crime est bien trop nette. Il n'y a pas eu effraction, il n'y a pas eu lutte. Un peu comme si la victime connaissait son ou ses assassins. Le vol est sans conteste le mobile du meurtre. La veuve Laurent était riche et tout le monde le savait. On lui a d'ailleurs dérobé des valeurs, dont un plein bol de pièces d'or qu'elle gardait bien imprudemment dans son salon. Mais, en perquisitionnant, les policiers font de drôles de trouvailles. Ils découvrent que la vieille femme avait caché de l'argent un peu partout. 80 000 francs en billets de banque et pas moins de 200 000 francs en titres dissimulés dans une armoire à linge qui ont échappé aux assassins. Car Moreux est persuadé que plusieurs individus étaient présents lors du crime. Pour preuve, cette bouteille de Banyuls et 3 verres vides posés sur la table de la salle à manger. La victime a offert l'apéritif à ses bourreaux. Le fils aurait-il fait le coup avec 2 complices ? Comme toujours, celui qui trouve le corps est soupçonné en premier. D'autant plus qu'il a un mobile, et un mobile sérieux. L'argent. Et puis il y a cette récente dispute familiale qui a conduit sa mère à déménager. Pourquoi pas ? Le fils Laurent fait un bon candidat. Mais, d'un autre côté, il n'aurait pas manqué l'argent et les titres dans l'armoire à linge. Un témoignage éloigne rapidement Stéphane Laurent de la guillotine. En effet, non seulement il a un alibi, mais les voisins affirment que, 1 heure avant son arrivée, 3 personnes se sont présentées chez Madame Laurent, 2 hommes et 1 femme qui avaient déjà été aperçus la veille traînant dans le quartier. Le premier était vêtu de gris, avec un visage lourd et une petite moustache. Le second, plus petit, plus mince, était habillé de bleu. Quant à la femme, une blonde fortement charpentée avec des dents en avant, elle avait été remarquée par plusieurs témoins à cause d'une particularité vestimentaire. Elle portait un tablier comme ceux des marchandes des 4 saisons. Aucun de ces individus n'est du quartier, c'est une certitude. Ils ne sont pas non plus des parents ni des proches de la victime. Mais alors, pourquoi la veuve Laurent les a-t-elle laissés entrer, elle d'ordinaire si méfiante ? Car les témoins sont formels, c'est bien elle qui leur a ouvert et qui les a priés d'entrer. Il n'y a pas eu de bagarre à l'intérieur, tout était impeccablement rangé, et il est probable que ce soit elle qui leur ait proposé un apéritif. Le mystère le plus épais entoure cette tragique affaire. Où cette femme prudente et même un peu peureuse a-t-elle bien pu rencontrer le trio ? Il fallait établir son emploi du temps jour par jour pour déterminer à quel moment et dans quelles circonstances ces individus avaient croisé sa route. Les policiers s'aperçoivent bien vite que la vie de la veuve Laurent est réglée comme du papier à musique. Tant mieux, cela va leur faciliter la tâche. De plus, les déplacements de la vieille femme sont extrêmement limités. Elle se rend 1 fois par semaine chez le boucher, guère plus fréquemment chez l'épicier. Son plus grand trajet la conduit 2 à 3 fois par semaine au cimetière de Bagneux pour se recueillir sur la sépulture de son époux. C'est là sa principale sortie. Aurait-elle rencontré le trio là-bas ? Le témoignage du plus proche voisin vient confirmer cette hypothèse. Quelques jours auparavant, la femme au tablier, dit-il, s'était déjà présentée chez Madame Laurent. Je l'ai entendu crier à cette dernière, qui était à sa fenêtre. Je profite d'une visite à la tombe de mon mari pour venir vous dire bonjour. Pour Moreux, c'est une révélation. Il faut commencer par là. C'est certainement au cimetière que la veuve a connu ses assassins. Oui, mais voilà, il y a un problème, et même un problème de taille. Le cimetière de Bagneux est l'un des plus vastes de la région parisienne. Il y a des centaines de divisions séparées par de hautes haies qui sont autant de niches de tranquillité discrètes et bien à l'abri des regards. Y enquêter va se révéler extrêmement difficile. Chaque division constitue même un petit village où les proches des disparus se rencontrent, développent des relations amicales, ou même plus. On a déjà vu des mariages se conclure sur le marbre funéraire. Mais, dans tous les cas, les divisionnaires finissent par apprendre les petits secrets les uns des autres, et c'est probablement ainsi que Madame Laurent a fait la connaissance de la femme au tablier de vendeuse des 4 saisons. Reste à la localiser. Le brigadier-chef Osler est chargé d'enquêter sur place. Il sait que la concession des Laurent se situe dans le 28e secteur du cimetière, et sa conviction est faite. Le nom du ou de la meurtrière est gravé sur l'une des tombes alentour. Reste à trouver la bonne. Osler interroge bien sûr en priorité le gardien du cimetière et les concessionnaires des autres tombes. Tous se souviennent parfaitement de cette petite bonne femme qui venait 2 à 3 fois par semaine se recueillir sur la tombe de son époux. C'était une gentille dame qui s'était fait une amie, une femme pas très grande, de forte constitution, avec les dents en avant. Elle portait même toujours un tablier plissé des marchandes des 4 saisons. Pour Osler, ce témoignage est inespéré. « Et quelle tombe venait fleurir cette amie » demande-t-il. Et là, déception. Aucun témoin ne peut être catégorique. « Je pense que c'est une tombe de la 15e rangée dans le milieu, mais je n'en suis pas sûr. Et puis cette femme n'est plus venue depuis le mois de mai. » Indication certes précieuse, mais la 15e allée comporte encore une vingtaine de tombes. Peu importe, l'étau se resserre. Osler relève un à un tous les noms des défunts. Direction ensuite les archives du cimetière pour noter les adresses des familles. Une gigantesque opération de police démarre alors. Tous les hommes disponibles sont lancés sur la piste de la marchande des quatre saisons. Ils frappent à toutes les portes des personnes inscrites sur la liste de Osler, contrôlent les identités. En quelques jours, les policiers parcourent pas moins de 3000 km dans et autour de Paris. Mais en vain. Au moment où ils allaient abandonner et explorer d'autres voies, ils tombent, totalement par hasard, sur un lointain parent de l'un des défunts qui figure sur leur liste, Fernand Revert, mort en 1933. Ce lointain parent leur explique que Fernand, quelque temps avant sa mort, s'était mis en ménage avec une marchande des quatre saisons, Victorine Delfour, qui vivait à l'époque dans le quartier de la Goutte d'Or. Il avait d'ailleurs croisé quelquefois au cimetière, mais apparemment plus personne n'avait de ses nouvelles depuis le mois de mai. Et le témoin se souvient même exactement de l'adresse de la femme, c'était au 19 de la rue Lagoua. Osler et Moreau n'en reviennent pas, leur théorie était juste. La tombe a parlé. Quelques heures plus tard, les deux policiers se présentent devant une maison modeste du quartier de la Goutte d'Or, rue Lagoua. Autant dire que l'affaire est bouclée. « Madame Delfour, » demande-t-il au concierge. « Deuxième étage, porte de gauche, mais vous ne la trouverez pas. Elle est partie en voyage avec son amie. » « Depuis quand ?» demandent les policiers. « Depuis le 3 août au soir. » Le 3 août, le lendemain du crime, ce ne peut être une coïncidence. D'ailleurs, le signalement du couple que donne le concierge correspond exactement à celui de deux des assassins. Une rapide enquête dans l'entourage de la marchande des quatre saisons permet de découvrir le nom de son compagnon. C'est un certain Sûr. C'est un dangereux repris de justice avec un casier aussi chargé que la laine d'un poivreau un lendemain de cuite. Les policiers apprennent vite que le couple s'est fréquenté dans un hôtel miteux, non loin de là, avant que Victorine Delfour n'installe son amant chez elle, rue Lagoua. En partant, Sûr a laissé sa chambre à un certain Henri Gentil, dont le signalement colle parfaitement avec le troisième agresseur de la veuve Laurent. Moreau et Osler se précipitent à l'adresse indiquée, mais l'oiseau s'est également envolé depuis le 3 août au soir. Et si un doute pouvait encore subsister, les empreintes de Sûr, conservées dans les archives de la police et retrouvées sur la scène de crime, viennent compléter le tableau criminel. Cela dit, les assassins ne sont toujours pas derrière les barreaux, et le remue-ménage fait par les policiers pour les retrouver risque de les alerter. Moreau a alors une idée. Il contacte la presse et lance une fausse rumeur. Il prétend que lui et ses hommes sont sur la piste d'une troupe de bohémiens qui auraient assassiné la veuve Laurent. Il faut que le trio se sente en confiance afin qu'il ne tente pas de quitter le pays. Et le traquenard fonctionne à merveille. N'étant plus sur leur garde, les assassins commettent erreur sur erreur. Ils contactent notamment d'anciennes relations. Ils sont repérés dans un hôtel de Lyon. Moreau et ses hommes s'y précipitent, mais là encore, les bandits ont quitté l'établissement 2 heures avant leur arrivée. La chance va enfin sourire aux policiers. Ils apprennent que le trio criminel s'est rendu à Lyon dans une voiture qu'ils viennent d'acheter, probablement avec une partie des pièces d'or volées à la veuve Laurent. Le véhicule est localisé dans un garage du centre-ville où un individu correspondant à la description de Sûr l'a déposé pour une petite réparation après un accrochage. Une discrète souricière est tendue et lorsque le criminel revient chercher son automobile, les policiers lui sautent dessus et le ceinturent sans problème. Le reste n'est qu'un jeu d'enfant. Et, quelques heures plus tard, le trio sinistre est réuni dans les locaux de la Sûreté lyonnaise. Et ainsi se termine cette enquête digne d'un véritable polar, comme je vous le disais en préambule. C'était Hervé Michel pour la série « L'écrivain mène l'enquête », et il me reste à vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout et à vous donner rendez-vous dans 15 jours pour parler d'une nouvelle affaire criminelle de la Belle Époque et des années folles. Thank you.